Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
18h40 passé, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. La joyeuse bande, l'info avec un autre regard jusqu'à 19h pour vous accompagner sur le chemin de la maison. Le menu Cyprien.
Ce soir, on défait les 44 milliards de Twitter. Oui, Elon Musk débourse 44 milliards de dollars pour s'offrir un réseau social qui ne dégage aucun bénéfice. C'est quoi le concept? On va tout vous expliquer. Au menu également, une leçon de politique par Ségolène Royal et des yaourts plus jamais périmés. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le traditionnel son du jour.
De money. Alors, 44 milliards de dollars, plus exactement. Ça fait un peu plus de 41 milliards d'euros.
Merci le convertisseur.
Mais de rien, hein, j'ai bien fait. Mais c'est vrai, comme ça, vous réalisez mieux. C'est ce que va débourser l'homme le plus riche de la planète, l'Américain Elon Musk, pour s'offrir le réseau social Twitter. Alors, il fait bien ce qu'il veut avec son argent, Elon. Hein. Mais ce qui nous a un peu plus intrigués avec l'équipe dont défait le monde, c'est la valeur de Twitter.
Comment et pourquoi ce réseau social pèse aujourd'hui plus de 40 milliards de dollars? Quel est le retour sur investissement attendu? Et après quoi court Elon Musk pour investir une somme pareille?
Pour plonger dans le monde mystérieux de l'économie de Twitter, on a donc contacté Raphaël Balenieri. Il est journaliste tech aux Échos, en charge des réseaux sociaux. Et alors, 44 milliards de dollars pour Twitter, ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, bah c'est un bon coup.
Si on compare aux autres réseaux sociaux, c'est vraiment pas grand-chose du tout. Par exemple, Facebook a une capitalisation boursière, donc ça c'est ce que Facebook vaut en bourse, de presque 520 milliards de dollars. Et donc là, Twitter avec une valeur de 44, on voit bien qu'on est vraiment un net cran en dessous.
Oh bah oui. Ouais, c'est cadeau. En plus, quand on s'appelle Elon Musk et qu'on a une fortune évaluée à plus de 250 milliards, bah c'est le prix d'un paquet de chips Twitter.
Mais quand il achète Twitter, il achète quoi concrètement?
Bah oui, alors là c'est flou parce que quand on achète une usine, bah on achète des lignes de production, des objets. Et bien là, c'est plus abstrait et en plus, pas forcément rentable à première vue.
Il achète d'abord la base d'utilisateurs. Twitter a environ 200 millions d'utilisateurs monétisables. Donc, c'est tous les utilisateurs qui peuvent recevoir de la pub. C'est-à-dire qu'en fonction de nos likes et de nos retweets, ensuite, des marques peuvent adresser de la publicité ciblée sur Twitter. Sachant qu'en fait, comparé aux autres réseaux sociaux, Twitter a eu du mal à être rentable. L'année dernière, ils étaient encore en perte. Ils ont eu une perte de 220 millions de dollars. Voilà, c'est plus difficile pour Twitter de monétiser.
Donc en fait, Musk, il dépense 44 milliards pour quelque chose qui ne rapporte pas d'argent.
Ben oui, 44 milliards dans une boîte pas rentable. Sauf que ben, c'est plus compliqué que ça, il y a autre chose derrière.
Il achète aussi un algorithme, c'est vraiment le nerf de la guerre dans les réseaux sociaux. Puis plus globalement, il achète un relais d'influence politique, en fait, un peu comme quand Jeff Bezos s'achète le Washington Post. Là, Elon Musk rachète Twitter. C'est un réseau très professionnel, très politique.
En gros, en contrôlant l'algorithme, on peut influencer ce que les gens vont voir, c'est ça ?
Oui, il y a tout un algorithme qui détermine l'agencement des tweets.
Et oui, il achète de l'influence, du pouvoir, avec en ligne de mire, selon certains, un avenir et des ambitions politiques. Après, avec Elon Musk, l'économie n'est jamais très loin non plus. Et si Twitter n'est pas encore rentable, ça pourrait très vite changer, car...
C'est un réseau qui est assez unique, qui gagne des utilisateurs, alors que Facebook, lui, en a perdu pour la première fois au premier trimestre. Twitter n'a pas du tout été touché par l'effet coup de vieux qui touche Facebook et Instagram. Ils résistent bien à TikTok et à Snapchat. Voilà, ils n'ont aucun concurrent, en fait, dans le monde occidental. Donc, ils ne sont pas rentables aujourd'hui, mais il y a du potentiel et c'est ça que Elon Musk achète.
Vous l'aurez compris. En fait, Elon Musk a presque fait une bonne affaire en dépensant seulement 44 milliards de dollars.
C'est gratuit, on vous a dit.
RTL, sous les radars.
On défait effectivement l'info passée sous les radars.
Et si, comme moi, vous êtes un petit peu psychorigide avec les dates de péremption sur les aliments, là, Cette info va vous glacer le sang, Laurent.
Oui, préparez-vous si vous allez au Royaume-Uni. La société Co-op, qui commercialise des yaourts, a décidé de supprimer les dates limites de consommation sur ses produits. À partir du mois de mai, vous ne verrez plus inscrit, par exemple, sur les pots à consommer avant le 15 mai. L'objectif, c'est de responsabiliser les consommateurs britanniques. Près de 42 000 tonnes de yaourts qui ont dépassé la date limite terminent à la poubelle chaque année au Royaume-Uni, et la moitié est jetée dans des emballages qui ne sont même pas ouverts.
Mais alors, du coup, comment je vais savoir si mes yaourts sont toujours bons ?
Et je vais vous le dire, les consommateurs sont invités à faire preuve de jugement pour déterminer si les produits sont encore comestibles. Et l'un des responsables de Co-op a déclaré qu'il fallait se fier à l'acidité du yaourt, donc vous allez vous transformer en goûteur. Et on rappelle de toute façon que quand vous lisez « à consommer de préférence avant telle date », vous pouvez encore manger sans risque votre yaourt pendant 2 à 3 semaines.
Au pire, c'est du fromage, quoi.
Voilà.
Effectivement. Non, mais... on est d'accord.
Ouais. On relativise les choses comme
on
ça.
On ne s'empoisonnera pas, Cyprien, rassurez-vous.
Très bien, je le fais pas quand même.
Allez, petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Première info pour briller au dîner, on va vous emmener à Matignon. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h48, vous êtes peut-être en cuisine en train de préparer le repas, de préparer les yaourts, cher Cyprien.
Les yaourts.
Ah oui, mais ça
on continue de défaire le monde et voici une première info pour briller au dîner.
Alors que tout le monde joue au jeu de qui sera le futur Premier ministre, ce qui est certain, c'est que l'heureux élu aura un beau record à aller chercher, Laurent.
Oui, il faut bien noter. 6 ans, 2 mois et 26 jours. C'est Georges Pompidou qui détient le record. Il était à Matignon de 1962 à 1968, sous De Gaulle, évidemment. Et avec le passage au quinquennat, évidemment, tenir plus de 6 ans pour un Premier ministre, c'est quand même compliqué, c'est mathématique. Ouais. Hein. En revanche, on lui souhaite de tenir plus longtemps que Bernard Cazeneuve, qui n'aura passé que 155 jours à Matignon entre 2016 et 2017.
Donc il faudrait que Jean Castex soit de nouveau nommé.
Oui, par exemple.
Pour avoir une chance de battre le record.
C'est vrai,
c'est pas gagné. Pis.
Julien Cellier, Cyprien Cini, on défait le monde.
Tous les soirs à cette heure-ci, les personnalités tremblent en écoutant RTL parce que Céline choisit soit le winner, soit le loser du jour. Mais aujourd'hui, ça gagne.
Oui, une grande gagnante qui nous offre dans cette période troublée une véritable leçon de politique et peut-être même son secret pour durer dans un monde très instable, Céline.
Oui, Ségolène Royal, qui était hier l'invitée de nos confrères de BFM. Et à l'heure où, vous le disiez vous-même à l'instant, tout le microcosme ne parle que d'une chose...
Quel casting pour Matignon ?
Matignon.
Matignon.
Quel Premier ministre ?
Premier ministre.
Un nouveau Premier ministre ?
Eh bien, Ségolène Royal dresse un constat.
Et comme il y a un gouvernement quand même qui a dérivé vers la droite, c'est vrai qu'on a besoin d'un rééquilibrage. On a besoin d'apaisement, on a besoin d'union nationale.
Et qui pour incarner tout ça, hein ? Non, je vous vois venir. Elle n'est pas candidate. Mais quand on lui demande, si jamais, comme ça, si son téléphone sonnait...
Bonjour, c'est Emmanuel Macron.
Bonjour. Mais oui, s'il appelait le président, que répondrait Ségolène Royal ?
Non, mais on répond pas. Vous savez, mon expérience politique m'a appris à ne pas répondre aux questions qui n'étaient pas posées.
Ouais. Bon, d'accord. Ah, mais on me dit qu'elle n'avait pas fini sa phrase.
Mais si elle me l'est posée, je réfléchirais, en effet.
Ouais. Donc c'est pas non. Ah, mais c'était toujours pas fini.
Mais ça ne se refuse pas. Matignon ne se refuse jamais.
Ah oui, oui. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique.
Et c'est vrai que c'est beau, cet art de ne pas fermer une porte qui n'était pas vraiment ouverte. Hein. Et c'est pas la première fois. Rappelez-vous, en septembre dernier, Royal venait d'être sévèrement battu aux élections sénatoriales et décidait de lancer un message tout en subtilité aux écolos qui se déchirent alors entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, les écolos qui ne lui avaient rien demandé.
Il y a deux options dans l'écologie, effectivement, il y a l'écologie radicale, puis l'écologie de la transition. Moi, je ferai la synthèse entre les deux. Moi, je suis pour l'écologie intégrale.
Tout en subtilité, on vous dit, avec le succès que l'on connaît, hein, la porte n'était pas ouverte, c'est jamais ouverte. Depuis, Ségolène Royal a affiché son soutien à Jean-Luc Mélenchon, car comme le disait il y a quelques jours François-Olivier Gisberg sur notre antenne...
L'homme politique, le grand homme politique, c'est quelqu'un qui s'est changé.
Et sur ce plan-là, on ne peut rien lui reprocher.
C'est une certitude. Allez, petite pause dans un instant. Nouvelle info pour briller au dîner. On continue de défaire le monde dans RTL Soir, direction Tchernobyl. Juste après ça.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Cini. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h54, bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir, je vais y arriver, je travaille depuis peu dans cette maison. On défait le monde jusqu'à 19h pendant encore quelques minutes et voici une nouvelle occasion de briller ce soir au dîner.
Grosse frayeur aujourd'hui autour de Tchernobyl, vous avez peut-être vu dans la journée passer une alerte vous disant que le niveau de radioactivité de la centrale était anormal. Bah, en fait, c'était une faute de frappe, hein, fallait lire normal. C'est quand même plus rassurant. Mais Céline, vous, vous avez vraiment paniqué, oui. Du coup, vous avez creusé. Hein.
Oui, Tchernobyl, l'occasion de relire ce passage de l'Apocalypse selon Saint Jean, où il est question.
D'où ça vient ?
Vous allez voir. Vous allez
c'est
voir.
Improbable, il faut suivre.
Où il est question d'une grande étoile ardente qui tombe comme un flambeau. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors, pourquoi ? Pourquoi je vous lis ça ? Pas seulement parce que quand on entend Tchernobyl, on pense à une forme d'apocalypse, mais parce que Tchernobyl en ukrainien, eh ben ça veut aussi dire herbe amère, ou plus précisément absinthe.
Oh. Ah oui, effectivement.
Joli.
Mais, donc déjà, vous êtes bilingue.
Elle était contente de son coup, je
peux vous dire. Et alors là, vous êtes allé chercher une référence incroyable. Ouais. L'apocalypse selon Saint Jean. Je suis désolé, Laurent.
C'est imparable.
Mais là, ce soir, vu les efforts déployés par Céline, je suis contraint de lui donner le point.
Bah, allez-y, c'est cadeau.
Marche. Ouais.
Allez, tous les soirs, à cette heure-ci, avant 19h, vos chouettes idées au bout du fil.
Et face à la hausse des prix, on peut tous trouver des astuces, vendeurs comme consommateurs. On peut tous être malins, à l'image de cette boulangère, qui, il faut le reconnaître, a une super idée, Laurent.
Oui, pas question pour Valérie, boulangère à Thouars dans les Deux-Sèvres, de faire payer plus cher la baguette à ses clients. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Vous avez trouvé la solution, ne plus mettre la baguette dans un emballage.
Tout à fait. Nous sommes avant tout, nous aussi, des consommateurs et on voulait réfléchir pour ne pas impacter le porte-monnaie de nos clients. Et on s'est dit que cet emballage, qui lui aussi a augmenté, allait directement dans les poubelles, charger les poubelles, détruisait des arbres. Et on s'est dit, pourquoi pas l'enlever et ne pas augmenter le pain.
Mais attendez, ça veut dire que les pains tranchés non plus, vous les mettez plus dans des sacs ? C'est pas très pratique quand même.
Si, les pains tranchés sont dans des sacs, mais on demande à nos clients soit d'emmener des petits sacs qu'ils ont fabriqués, soit tous ceux qu'on leur avait fournis depuis des années, il y en a qui les gardaient précieusement mais qui les ramenaient jamais. Donc on leur demande de revenir avec leurs petits contenants. Ou alors, vraiment ils n'en ont pas pour les pains tranchés, on en met, mais moyennement 5 centimes.
Si vous n'aviez pas pris cette décision, le prix de la baguette, il serait monté de combien ?
Alors, d'un minimum de 5 centimes et jusqu'à 10 centimes, puisqu'on a déjà eu une hausse de farine plus la hausse des sacs à pain.
Et alors, vous avez expliqué à vos clients cette démarche ?
Alors, j'avais commencé justement par en parler à mes clients en leur disant, en premier, les sachets ont augmenté. Mon minotier vient de m'annoncer une hausse de farine, une nouvelle hausse. Et j'en ai parlé avec mes clients les plus anciens et les plus fidèles en leur disant, je pensais faire ce genre d'action. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai eu beaucoup de bons retours et du coup, pendant une semaine, ça a été des échanges avec mes clients. Ce qui a aussi leur donné la possibilité et le temps de s'organiser, eux, de leur côté, pour faire des sacs à pain, pour garder tout ce que je leur donnais en attendant. Après, j'ai fait une petite affiche dans ma boutique et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon Facebook. Ça a été partagé pas mal de fois et au bout de 15 jours, j'ai mis en place. Ça a été définitif.
Il n'a rien d'obligatoire, en fait, cet emballage. C'est devenu une habitude, mais il n'y a pas d'obligation en termes d'hygiène ou de...
Nous, on n'a pas d'obligation pour la bonne et simple raison que les clients ne touchent pas le pain. C'est-à-dire qu'il est en rayonnage, nous, on l'attrape et on le met dans leur sachet. Que dans les grandes surfaces ou les choses comme ça, tout le monde tripote tout.
Ah ouais.
Que nous, personne ne peut y toucher. Il est dans le rayon derrière nous. Le client nous demande s'il veut une baguette courte, une longue, une bien cuite, une pas trop cuite. On le choisit, on lui montre et une fois qu'il l'a accepté, on lui met dans son sachet.
Donc pour la baguette moins chère, c'est chez vous. Comment elle s'appelle votre boulangerie, Valérie à Thouars ?
Alors nous, c'est boulangerie-pâtisserie Prunier, La Pétrie.
Et on vous retrouve où exactement l'adresse ?
Au 45 rue Anatole France.
On entend les clients qui arrivent derrière.
Oui, ça se bouscule. C'est pour la dernière baguette du soir.
Voilà. C'est vrai que ça bouge pas mal.
Bien, merci Valérie pour votre initiative dans les Deux-Sèvres. Bonne soirée.
Je vous en prie, bonne soirée à vous tous.
Désolée pour les clients qu'on a fait patienter.
C'est bientôt la fermeture.
Effectivement. Si comme Valérie, on a de riches idées, on peut nous contacter.
Ah, évidemment, vous avez la page Facebook et le compte Twitter. À chaque fois, ça s'appelle On défait le monde, c'est facile, c'est comme le nom de l'émission. Et n'hésitez pas, Laurent attend vos messages.
Hein, oui, deux jours comme deux nuits.
On relève le courrier aussi.
On relève le courrier. 56 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine.
On sera ravis, en tout cas, de mettre vos belles initiatives en valeur à l'antenne, comme celle de Valérie, par exemple. À l'instant, vous les auditeurs. Merci les amis d'On défait le monde. On se retrouve demain, 18h40, dans RTL Soir, juste avant le journal.